sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça être artiste.
Ça me met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Nous sommes sur Divergence FM. Et aujourd'hui, dans les studios de Divergence, nous sommes en compagnie de Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Clémentine.
Et je suis aussi accompagnée d'Elsa, mon acolyte qui m'accompagne tout au long de cette émission.
Bonjour à tous.
Comme vous le savez, cette émission est là pour convoquer le grand esprit de la création. Et voilà, on va parler ensemble de création, de processus, de médias, de, voilà, d'art au sens large du terme. Et allons-y. Donc Françoise, qui est invitée, je t'invite à te présenter, à nous dire qui es-tu.
Bien, je suis artiste peintre. Mon travail est inspiré de l'océan et en particularité de sa beauté, mais surtout de sa fragilité et de la fragilité de la biodiversité dans l'océan.
C'est-à-dire que tu utilises cette fragilité pour la, enfin tu la mets en avant, c'est comme pour avertir que attention. Enfin, est-ce qu'il y a de la prévention aussi dans ton travail? Quelle est la place de cette fragilité
Alors, effectivement, au départ, je m'inspire de la beauté des animaux marins et de la beauté des bleus de l'océan. Et ensuite, je questionne tout ce qui va autour de cette beauté et de sa fragilité. Donc, je peux avoir la possibilité de m'inspirer du travail de scientifiques qui vont parler des difficultés qui peuvent arriver effectivement dans le milieu aquatique et donc de tout ce qui a toutes les répercussions du réchauffement climatique et de ses conséquences. Donc effectivement les animaux qui peuvent changer de territoire, voire même disparaître pour des raisons écologiques et des problèmes très particuliers. Donc voilà, c'est vraiment la partie qui m'inspire beaucoup. Donc en dehors du fait que j'aime peindre et m'inspirer de la beauté des océans. En plus, j'aime également m'inspirer de tout ce qui est dans la recherche sur ce domaine-là.
Et donc, tu disais que tu es peintre. On va remonter à la source, si tu veux bien. On va nager à contre-courant, peut-être. Et on va aller à l'origine de la création. Quand est-ce qu'elle entre dans ta vie? À quel moment tu te mets à peindre, en fait? Ou à faire n'importe quel autre art, s'il y a un autre art qui est arrivé avant la peinture, peut-être, je ne sais pas.
Alors, pour être honnête, je ne vais pas dire que c'est pendant mon enfance, parce que j'ai dessiné comme tous les enfants, mais sincèrement, je ne suis pas allée vraiment vers ça dès le départ, parce que j'avais un grand frère qui faisait des jolis dessins, et moi je me disais, bon ok, j'aime bien dessiner, mais de toute façon, je n'y arriverai jamais comme lui, donc je me suis dit, c'est pas pour moi. Et puis, bien plus tard, à l'âge de un peu plus de 30 ans, vers mes 33-35 ans, je me suis tournée à nouveau vers le dessin et la peinture, et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire et qui me transportait vraiment, quoi. Je ne pouvais pas m'en passer. J'adorais aller à ces cours de dessin que je faisais avec d'autres amis, et depuis ce jour-là, je n'ai pas pu m'empêcher de continuer, et voilà. C'était vraiment mon plaisir, quoi, au quotidien.
Et donc, comment tu es arrivée petit à petit à l'océan? Est-ce que c'est un thème qui a été immédiat ou tu as dessiné autre chose, tu as peint autre chose? Comment tu as voyagé là-dedans? Est-ce que ça peut être comparé aussi à un voyage d'ailleurs? Peut-être pas.
Oui, je pense qu'on pourrait le comparer à un voyage parce que, bon, Au départ, ça a été parce que j'ai voyagé que je me suis retrouvée à m'orienter vers le milieu marin. Mais pour tout te dire, au départ, bien avant, j'ai commencé la peinture et j'adorais manipuler les couleurs. Donc, faire beaucoup de mélanges de couleurs et les associer. Et c'était plus des... Alors, ça n'a rien à voir, mais c'était plutôt des buildings et des reflets de lumière sur l'océan. De ces couleurs dans le bleu ou dans la nuit. Donc vraiment rien à voir. Et puis bon, ma vie qui m'a permis de voyager a fait, sincèrement, c'était aussi ma passion de voir les animaux marins, de vivre près de l'océan. Et de ce fait, c'est une association qui s'est faite automatiquement de partir de la peinture et de bifurquer vers ce milieu marin. Et depuis, c'est vrai que je suis restée... Finalement, j'ai quitté toutes ces couleurs qui, au début, étaient autour de moi. Et je me suis vraiment concentrée sur le bleu et uniquement le bleu et ses variations, par contre. Donc, mais le voyage a été ce qui fait qu'aujourd'hui, mes peintures ont évolué vers ce qu'elles représentaient actuellement.
Et donc, tu parles de tes voyages. Est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des océans, des mers en particulier qui t'ont inspirée?
Ça pourrait être un petit peu tous les océans dans lesquels je suis allée. Donc, ça va être le Pacifique et aussi l'océan Indien, beaucoup. Donc, c'est ces endroits-là un petit peu magiques avec ces bleus de toutes les couleurs et surtout ces bleus lagons et turquoise. Et c'est ensuite... Le voyage, pour moi, je l'ai intégré dans mon travail en mettant des cartes marines. Donc, en fait, pour représenter un petit peu le lieu où vit l'animal que je décide de peindre, je me retrouve à prendre des cartes, à déchirer et à les repositionner à mon inspiration. Donc, c'est vraiment à partir de cette création-là, au départ, de coller des cartes et de les positionner sur une toile. Et ensuite, donc à la base, il y a toute une recherche qui va être de savoir quels sont les articles scientifiques qui vont donner des informations sur le fait que effectivement cet animal-là, alors si on prend l'exemple par exemple de la baleine à bosse, dans quels océans elle se trouve ou dans quels océans on a tendance à justement ne plus trop la croiser pour des raisons de réchauffement climatique par exemple, pour faire simple, eh bien... ça va être à ce moment-là que je vais utiliser une carte marine d'un lieu précis. Ça va plutôt être, par exemple, dans l'Antarctique ou des lieux comme ceci. Et c'est là que je vais laisser libre cours à mon inspiration après, parce que je vais m'inspirer de ces recherches. Mais ensuite, ça va juste être, dans mon travail, ça va être représenté par le collage et après les associations de couleurs. Et des fois, l'animal est représenté, mais des fois, ça peut être même sans qu'il y ait un animal de représenté sur les tableaux.
Mais l'animal, il est présent, toi, dans ton circuit pour aller jusqu'à ta peinture finale. Il y a quand même eu, même si finalement il n'est pas représenté, t'as quand même traversé ça.
Oui, okay. Très souvent. Le plus souvent, j'ai d'abord pensé à l'animal. Et lorsque ça représente plusieurs, ce lieu-là peut représenter plusieurs animaux. Comme j'ai pas spécialement envie de tous les représenter, parce que je voudrais pas que ça ressemble à quelque chose qui serait un peu trop chargé. Donc je décide de plutôt partir vers quelque chose d'abstrait qui va rendre ma série beaucoup plus introspective, où on peut plonger à l'intérieur et pas forcément imposer un animal, mais plutôt comprendre le processus d'aller vers quelque chose que chacun va pouvoir s'approprier et pas imposer ce que moi j'aurais pensé clairement.
Et comme tu parles, donc tu as dit que même au début de ta carrière artistique, les mélanges de couleurs, c'était important. Le bleu, ça représente quoi pour toi ?
Le bleu, c'est un petit peu les 20 ans que j'ai passé sous les tropiques. Donc ces couleurs sont pour moi quelque chose qui n'est plus présent dans mon quotidien, puisque je ne vis plus sous les tropiques, mais qui est vraiment présent dans mes pensées, dans mon quotidien, puisque au final... toute la journée, tous les jours, tous les moments, même quand je ne suis pas en train de peindre, c'est cette recherche de faire une nouvelle toile, un nouveau travail qui va me permettre de replonger finalement dans ce quotidien qui n'est plus réel, mais qui est dans mes pensées.
Tu te fais une petite prolongation de tropique par la peinture, finalement.
Exactement. Tu as tout compris.
Chouette. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a intéressée, c'est que tu as dit j'avais un grand frère qui dessinait super bien et du coup, je ne m'autorisais pas à y aller parce que je ne pouvais pas faire aussi bien. Comme s'il y avait une forme de...
De compétition
de, ouais, ou de l'illégitimité. Enfin, est-ce que tu... Enfin, à quel moment, du coup, tu t'es dit, en fait, je suis légitime de le faire et de le faire à ma sauce et de le faire bien, quoi, parce que j'ai envie de le faire. Enfin, est-ce que tu as senti comme ça une bascule de légitimité
À l'âge adulte, c'est quelque chose qui m'a plu traverser l'esprit. En fait, j'avais complètement oublié que ça pouvait être quelque chose qui me dérangeait. C'est finalement juste en tant qu'enfant, je me suis dit, oh, mais lui il sait faire, moi je suis petite. Et donc, j'ai oublié ensuite, mais plus tard, lorsque j'ai recommencé à dessiner et à peindre vers l'âge de 30 ans, je le faisais pour mon plaisir et je n'avais pas du tout imaginé en faire mon métier, sincèrement. Et le regard des autres, les moments que je passais à de plus en plus à être dans une pièce ou dans un lieu où j'étais avec d'autres amis et je pouvais me retrouver à peindre et à passer du bon temps, c'était vraiment ce moment-là qui a fait que j'ai pu douter. Et puis aussi, après, c'est l'entourage. C'est très important, l'entourage. Et les personnes qui vous soutiennent et qui vous disent « Mais en fait, il faut vraiment que ce soit ça que tu fasses. Ça te fait plaisir et tu peux vivre de ta passion aussi. » Donc, ça, c'est les rencontres. Après, c'est vraiment les rencontres et les personnes qui sont proches et qui nous entourent, quoi, finalement. Mm-mm. Donc, moi, c'est mon cas, en tout cas.
Est-ce qu'il y a eu des personnes clés sur ton parcours ?
Oui, ça c'est clair, je peux dire que mon mari, Laurent Dagorne, est la personne clé qui a toujours aimé ce que je fais dans mon travail de peintre. Et donc lui, il a été à la fois mon soutien pour me guider et me dire « vas-y, continue, c'est ton truc, tu adores faire ça, donc tu ne dois pas douter de toi ». Bon, toujours... Ce moment un petit peu de doute quand on est artiste, même si on est au tout début encore plus. Et puis dans son travail aussi, puisqu'il est chercheur, il travaille sur le comportement des animaux marins, donc des thons, des requins. Donc sa thèse a été sur le comportement des thons. Donc franchement, mes voyages sont totalement liés à la vie qu'on a eue ensemble et qui ont fait que je parte un petit peu dans toutes les mers et tous les océans. Donc c'est aussi de ce côté-là qui m'a permis d'aller vers... Enfin, voilà, quand j'étais enfant, jamais de la vie j'aurais imaginé pouvoir aller vers ce genre de dessin ni de peinture. C'était pas du tout une passion quand j'étais enfant, quoi, sincèrement.
Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que... Donc tu parles de ces fameux doutes que tu as pu avoir dans ta carrière. C'est quoi ces doutes-là?
Tu vois ce côté penser que t'es pas légitime dans ce que tu fais. Ah,
c'est récurrent dans ta vie en fait.
Totalement. Ouais. je suis bien en fait. Plus je prends des années et plus je suis heureuse de faire ce que je fais quoi. Et plus je m'accomplis, je suis en harmonie avec moi-même et avec ma carrière. Enfin, si on peut appeler ça une carrière, mais si tu veux. Sur ce que je vis au quotidien depuis que j'ai découvert la peinture et que je me suis accomplie parce que j'en ai fait ma passion et j'ai essayé d'en vivre, je peux pas m'empêcher en fait chaque jour de ne penser qu'à ça dans mon quotidien lorsque c'est le moment de travailler, évidemment, parce que je fais pas ça. Mais bon, si, en vrai, ça me réveille la nuit aussi. C'est-à-dire, j'y pense tout le temps. Je fais la vaisselle, je pars en voiture, à tout moment, je me dis, ah oui, et si je faisais comme ça, ah, ou alors comme ceci. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, ouais. Toutes mes journées sont rythmées par ça, mais pour le plaisir, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi.
Mais c'est marrant, franchement, je te rejoins complètement là-dessus sur... juste y aller, se remettre à peindre et se dire mais en fait c'est trop bien et pas penser que ça peut devenir un projet, juste faire ce qu'on a envie de faire, puis ensuite les choses se construisent et je trouve que de façon générale quand c'est comme ça, enfin pour ma part, j'ai l'impression que quand on se met à faire parce qu'on a envie de le faire, et les choses elles s'alignent, puisqu'on est au bon endroit, quelque part. Parce que j'ai l'impression que c'est ce bon endroit où on est dans le plaisir, dans la joie. Enfin, c'est une formule qui fonctionne, le plaisir et la joie.
Ça peut être même quelque chose qui est dans le corps, en fait. C'est même pas intellectuel, c'est juste ce besoin de créer. Et en fait, au bout d'un moment, on met une énergie dans un projet, dans une toile, dans un collage, dans n'importe quoi. Et en fait, oui, c'est ça, c'est cette espèce d'alignement des astres où on se dit « je suis au bon endroit, au bon moment, et je crée exactement ce que j'ai envie de créer
oui. ». Et après viennent les questions de... Enfin, plus professionnalisante ou « ok, là, il y a une expo, machin, ok, il faut s'organiser ceci, ok ». Mais l'élan premier, primaire de cette création, elle est dans le plaisir, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est pleinement... Quand c'est comme ça, on est pleinement disponible à notre art. Je sais pas si ça te parle, mais...
Oui, ça me parle énormément parce que... Souvent, bon, voilà, c'est vrai qu'il faut répondre à des appels ou créer des œuvres parce qu'il y a des commandes, etc. Donc, ça peut être du plaisir aussi. Mais je dois avouer que par moment, lorsque je découvre, je vais vers une autre recherche, vers un autre travail et que vraiment ce travail-là me plaît énormément, je me retrouve à avoir de nouveau cette impression d'être là au bon moment et de prendre énormément de plaisir à avoir découvert ce nouvel objectif, cette nouvelle série ou comment dire. Et j'aime bien cette journée qui commence où à chaque fois je me dis « Ah là, je vais vraiment me régaler, je prends mon petit déj, j'installe tout et je suis souvent dans mon salon d'ailleurs parce que mon atelier est un petit peu en bazar, on va dire, donc il n'est plus trop utilisable. Mais dans mon salon et j'ai tout préparé, mon petit café, etc. Et là, je suis bien et je sais que je fais la chose qui me fait plaisir et c'est essentiel, quoi. Ça, c'est une chance, en fait.
Et quand il y a cette énergie créatrice qui s'empare de toi, est-ce que tu as plutôt tendance à vouloir créer et à ne pas t'arrêter jusqu'à ce que ça soit fini? Ou alors, est-ce que tu prends plus le temps? Est-ce que c'est plus quelque chose... C'est un processus pour toi? Ça se passe comment?
Alors, ça peut être les deux à la fois... ou séparément, c'est-à-dire que j'ai du mal un petit peu des fois lorsque je pense énormément au projet de me lancer réellement. Je me dis, je vais le faire, mais je repousse un peu des fois. Pas vraiment parce que je procrastine, mais plus parce que j'appréhende le moment où je vais un petit peu comme la toile blanche, tu vois. Mais ensuite, par contre, lorsque je l'ai démarrée et que je sens... Vraiment, j'en suis à un niveau où ça m'éclate vraiment parce que j'ai passé le cap du doute. Là, sincèrement, je peux y passer des heures et ne pas m'arrêter, quoi. Vraiment. Et j'ai mal partout, d'ailleurs, parce qu'après 50 ans, on commence à avoir un petit peu des douleurs.
Et justement, en parlant de corps, il y a toujours une question qui m'intéresse de poser. C'est quand tu crées... est-ce que ton corps est modifié? Là, pour le coup, par exemple, tu es dans une posture, donc ça peut tirer à des endroits, mais est-ce que tu sens que... Dans quel état est ton corps? Est-ce que tu t'échappes complètement du mental? Est-ce que... comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux avoir une forme méditative ou autre?
Ouais, on pourrait dire ça parce que le temps que je crée, donc si ça fait des heures que je suis assise en train de peindre, je ne me rends pas vraiment compte que j'ai mal. Mais... C'est ensuite seulement que lorsque je finis, je me dis « Ah oui, d'accord. Non, là, quand même, j'aurais peut-être dû me lever plus tôt parce que j'ai mal partout. » Mais sur le moment, je ne me rends pas vraiment compte que ça me fait mal, tu vois.
Mm-hmm. Ouais, je connais ça. Moi, je crée parfois des... J'ai mes périodes. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et c'est dans les cartons. Mais soit de la peinture avec tout ce qui traîne, je ne sais pas. Ou soit des attrape-rêves, des énormes attrape-rêves. Et pareil, je peux rester pendant des heures. Pourtant, je suis quelqu'un de très speed et tout. Il faut toujours que je bouge. Mais dès qu'il s'agit de soit dessiner, soit créer les attrape-rêves et tout, je me dis, mais comment c'est possible qu'un énergumène comme moi, qui a la bougeotte, peut rester comme ça pendant 4 heures de suite, à avoir des fourmis dans les genoux, dans les orteils, dans la tête, partout. Et... dans une espèce de fouillis où il y en a de partout et en fait t'es concentré, tu ne lâches pas. Alors moi c'est souvent le sourcil qui est complètement froncé comme ça là, et comment c'est possible en fait, mais en fait ça me met dans un espèce de d'autres, ça ouvre une autre dimension, enfin c'est un autre monde, il y a plus rien, il y a tout, tout s'arrête autour, en fait on s'en fout, il y a que ça qui compte. Et ouais, je pense que ça quelque part nous extrait du mental, ou je sais pas, tout en ayant mal au corps, c'est ça qui est dingue.
C'est ça, c'est ressourçant d'un côté, et de notre côté ça nous fait mal partout, donc il y a quelque chose de un petit peu pathologique, non?
Et en parlant de pathologie, est-ce que, et enfin je fais le lien avec la thérapie, est-ce qu'il y a un côté autothérapeutique pour toi, ou pas du tout?
Bah, je suppose, parce que je suis heureuse, donc...
Magnifique.
C'est spontané, en plus.
Tout va bien.
Super. Tout à l'heure, j'ai des images qui me viennent assez facilement quand on décrit un lieu, et tu disais, j'ai laissé de côté l'atelier qui est trop enfoui, et je suis dans mon salon avec mon petit café et tout. Est-ce que tu as des petites habitudes comme ça, de routine, le café, des horaires, je sais pas, enfin une musique, n'importe quoi, qui te mettent en condition? Est-ce que tu as une espèce de mise en condition comme ça pour créer?
Oui, déjà c'est vrai que mon café, c'est super important. Ensuite la musique ou les podcasts, suivant les moments de la journée. Mais la musique, lorsque vraiment je suis en immersion et que je m'éclate, quoi. Donc la musique, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Parce que sinon les podcasts, j'ai tendance à écouter trop ou à pas du tout entendre ce qui se raconte. Donc c'est pas suffisamment pour se concentrer, c'est pas l'idéal. Mais la musique, ouais, j'adore écouter du Bob Dylan ou des musiques comme ça que j'adore, quoi. C'est vraiment le moment le plus agréable d'être immergé dans la musique. J'oublie tout le reste, sincèrement. Et être seul, ouais. Être dans... S'il y a du monde autour, je ne vais pas pouvoir travailler de la même manière. Donc, être seul, c'est sympa.
Et est-ce que tu parles plutôt, par exemple, le matin, plutôt le soir, plutôt quoi?
Un peu les deux, mais plutôt le matin, au jour d'aujourd'hui. Quand je suis dans mon atelier, je peux rester tard. Mais lorsque je suis à la maison, après, il y a le rythme un peu du quotidien qui fait que, tu vois, le salon se remplit, il y a du monde qui arrive, et là, la soirée se termine un peu plus tôt que lorsque je peins dans mon atelier. Mais là, actuellement, mon atelier, c'est pas possible, donc je m'arrête à des horaires,
on va dire, de bureau. Et t'arrives à débrancher ton cerveau de la toile que tu es en train de peindre, t'arrives à le débrancher?
Eh ben, pas du tout, en fait. Surtout que comme elle reste dans mon salon,
ah, oui.
Je la pose
elle
à un endroit.
Elle te regarde.
Voilà, elle m'observe. Si c'est un œil de baleine, ben là, je suis largement trop observée. Et des fois, je fais exprès d'ailleurs de la mettre à un endroit où je la vois souvent, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Mmh. Et ça peut prendre des jours, mais je me dis, ah là, il y a un jour où ça se débloque, et je me dis, trop bien. Là, j'ai trouvé le truc, et c'est important, en fait, de la voir au quotidien.
Ouais. Ça se débloque de manière intuitive? C'est important pour toi, l'intuition, ou pas?
Ah oui, très important, ouais. C'est de manière intuitive, mais des fois, ça peut être également parce que je trouve qu'elle manque, tu vois, d'émotion, ou il manque quelque chose qui va me permettre après de me dire, ok, là je sais que ce que j'ai fait, c'est vraiment ce que j'attendais, tu vois, donc...
Et qu'est-ce qui te fait dire... Donc, par exemple, tu vas laisser cette toile... te regarder pendant plusieurs jours, et à un moment donné, bing, tu trouves le petit détail, le petit truc que tu n'avais pas encore jusque-là, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que souvent, je me suis rendu compte que lorsque je reste devant ma toile pendant des heures, j'arrive plus à en sortir, et je vois plus, par exemple, s'il y a un défaut, ne serait-ce que quelque chose qui est pas correct. Je sais qu'il y en a un, mais j'arrive pas à le voir. Et lorsque je reviens un peu plus tard, j'ai mes yeux qui retombent sur cet écran, enfin sur cette toile. Je me dis, ah oui, c'est évident, en fait. Mais tu vois, il a fallu que j'en sorte pour y retourner, quoi. Retomber.
Ouais,
de...
je comprends.
Voilà.
Moi, tu sais ce que je fais parfois quand c'est comme ça pour le dessin. Enfin, je fais de la pyrogravure aussi, et sur le bois.
Génial.
Et en fait, très régulièrement, ce que je fais pour voir si ça va ou pas, parce qu'en plus, je ne suis pas du tout, tu vois, peintre ou quoi que ce soit, donc tout ce qui est proportion, nanana, c'est pas... Voilà, je fais à ma sauce, quoi. Et ben, je le prends en photo avec mon téléphone. Et du coup, après, je regarde la photo et ça me met cette distance-là. Et en fait, et d'un coup, ça me saute aux yeux et je me dis... Oh, ah ouais, là, ça va pas du tout, la joue, le machin, waouh. Et ouais, la mise en distance avec juste le fait de le prendre en photo.
C'est top, ouais. C'est une bonne idée.
C'est marrant que tu le prennes en photo, parce que la photo, c'est un processus créatif aussi.
Donc, en fait, ouais, c'est un peu moche, hein, c'est juste...
Bah ouais, mais c'est trop marrant que tu prennes ta création en photo, tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est vrai.
C'est une mise en abyme qui est chouette.
La création dans la création, ouais. Bah oui, mais c'est alors ça, la mise en abyme...
On fera peut-être pas des expos.
Ah, mais on pourrait en parler pendant des heures. Moi, je trouve que toujours, y a toujours un truc dans un truc. On peut toujours aller dans... Si tu commences à partir dans une dimension et une autre et machin, en fait, c'est l'infini, quoi, là-dedans. C'est fabuleux.
C'est l'infini dans ton cerveau, Françoise?
Oh oui. Comme si l'océan. Le truc, c'est que j'ai plein d'idées et j'arrive pas. Il y a des moments où il faut que je me dise, bon, là, je prends celle-ci et je vais vers celle-ci. Parce que sinon, j'en ai des tonnes et je n'arrive pas à canaliser, tu vois. Donc, après, c'est aussi, je fais un choix, puisque il y a aussi les images qui m'inspirent énormément, tu vois. Grâce aux images que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, c'est vrai que... Les plongeurs qui vont partout dans les océans, moi, j'ai plus cette chance-là, donc ça me permet vraiment d'être très, très inspirée par leur travail, tu vois.
Les réseaux sociaux, c'est un outil, du coup.
Ouais, c'est un outil vraiment important, ouais.
Ça, c'est intéressant.
Super.
Jongler avec les images qui viennent du monde entier, tout ça réuni, c'est une opportunité inestimable, quoi. Ouais. On pense aux peintres dans les siècles précédents, lorsqu'ils devaient trouver l'inspiration, c'était un peu plus compliqué que pour nous aujourd'hui.
Hein. Bah ouais, c'est vrai que maintenant, on peut voyager à la vitesse d'Internet ou...
Ouais, une vidéo, une photo.
C'est vrai, ça. Ouais. Et bien, on va arriver tout doucement vers les mots de la fin. J'ai envie qu'on en mette plusieurs aujourd'hui, parce que, comme d'habitude... À la fin, il y a le mot de la fin, et c'est un mot qui représenterait notre rapport à la création, voilà, de façon très spontanée, sans enjeu. Mais là, j'ai envie qu'on mitraille toutes les trois là, de plein de mots comme ça qui nous viennent. Donc, à toi l'honneur, Françoise, un mot.
Ben, je pourrais dire immersion, je pense. C'est vraiment celui qui caractérise à la fois. L'état dans lequel je suis lorsque je peins et je me retrouve vraiment immergée dans mon travail, et ainsi que j'espère que lorsque les gens regardent mon travail, ils peuvent avoir la chance de plonger aussi et d'être immergée dans les profondeurs des bleus avec mes animaux marins ou ne serait-ce qu'avec les peintures bleues qui représentent l'océan. Voilà.
Immersion, ça va très bien avec l'océan.
Ouais. Moi, ce serait énergie. Parce que l'énergie créatrice, c'est hyper important pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais parfois, je peux passer des semaines à ne pas créer, à ne pas pouvoir créer, à avoir le syndrome de la page blanche. Et tout d'un coup, c'est motivé par je ne sais trop quoi. Et ben, je rentre en transe et je suis capable de créer pendant des heures et des heures. Quoi. Mmh. Voilà.
Génial. C'est top.
Moi, je dirais, je le dis tout le temps, celui-là, mais c'est infini. Pour moi, c'est tellement une infinitude. On peut toujours recommencer... On peut toujours faire évoluer, on peut toujours voir les choses différemment, changer de point de vue.
Tester d'autres techniques.
Ouais, se réinventer. Mm. Je trouve ça chouette. Et j'ai envie de demander à Alice, qui est à la réalisation, si elle a un mot à nous partager. Parce qu'elle est de l'autre côté du micro. Si elle n'a pas de mots. Tu veux qu'on t'invente un mot, Alice? Allez, je dirais l'originalité. L'originalité, ça peut être un chouette mot aussi.
Carrément.
Ouais.
D'autres mots?
Ben, moi, je dirais sensibilité. Tout ce qui est le partage aussi. Enfin, ce côté, le travail, c'est pas... Enfin, on appelle ça un travail parce que... C'est effectivement ce qui rythme notre quotidien, mais c'est plus que ça en fait, c'est répondre à des moments où on peut ensuite le partager, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est que être dans son atelier, être seul, c'est le moment où on est en train de créer l'œuvre, mais ensuite, pour moi, c'est vraiment très très important de me nourrir du regard des autres ensuite, de bienveillant. Donc peut-être ce serait plutôt celui-ci mon mot, la bienveillance, parce que J'apprécie les expositions et pouvoir être dans des moments où j'échange avec des visiteurs et il y a énormément de personnes qui ont énormément de bienveillance. Donc ça, c'est important de le savoir. On a un peu l'impression qu'on vit dans un monde de fous, mais il y a plein de gens super, quoi. Donc voilà.
Oui, super. Eh bien, merci beaucoup. C'était Françoise Dagorne qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Alice Rollet à la réalisation. C'était aujourd'hui l'épisode numéro 2 de ce deuxième volet de l'émission sur les chemins de la création. À très bientôt.
Merci.
Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.